RJB Info. Régis Maria.
Bonsoir, une 9e édition pour l'opération de Nage en Page. Cette initiative mise sur pied depuis 2017 par la médiathèque du Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan et l'association des livres en liberté propose à la population une cabane à livres à la piscine du château durant toute la saison estivale. À l'intérieur, on trouve aussi bien des magazines que des romans ou des bandes dessinées. Sur quels critères les livres choisis pour remplir la cabane sont-ils sélectionnés? La réponse de Lucie Etienne, responsable de la médiathèque du CIP et du département culture.
Pour la médiathèque, c'est vraiment des livres qui sont encore tout à fait utilisables, agréables en main aussi, mais qui ont fait quand même leur vie à la médiathèque ou qui ne sortent plus régulièrement. Alors, c'est vraiment plus des livres qu'on donne au prêt, c'est vraiment des livres qu'on sort entièrement de notre système à la médiathèque et puis qu'on met librement en accès.
Et on peut imaginer qu'avec les mains un peu humides des baigneurs, c'est des livres qui finalement vont terminer leur vie de livres à la piscine.
Exactement, et c'est d'ailleurs le but, on ne veut pas qu'ils viennent en retour, ces livres-là, ils partent vers une autre vie, ils sont partis à la piscine, c'est une autre vie pour eux, et s'ils sont abîmés, ils sont abîmés, c'est vraiment pas grave. D'ailleurs, même au contraire, s'ils ont été un peu abîmés par l'eau, c'est la preuve qu'ils ont servi, donc on est très contents.
Est-ce que la taille, ou plutôt la durée de lecture qu'on doit mettre pour un livre, ça compte? Est-ce que vous sélectionnez plutôt des livres petit format qui peuvent être lus, par exemple, sur une journée, et éviter des romans de 1500 pages, par exemple?
Alors non, on ne limite pas parce que les gens peuvent les prendre à la maison. Ce n'est vraiment pas un problème. Il n'y a pas de contrôle dessus. Donc on remarque que les revues sont très empruntées parce qu'effectivement, ça, on peut feuilleter, les reposer. Mais comme ça ne dérange pas que les personnes les prennent à la maison, les terminent à la maison et les ramènent ensuite ou pas même, il n'y a pas de problème avec ça. On ne regarde pas là-dessus.
C'était Lucie Etienne, responsable de la médiathèque du CIP et du département culture. La cabane à livres restera en place jusqu'à la fermeture de la piscine de Tramelan prévue à la mi-septembre. À noter également un après-midi conte qui sera organisé le 9 juillet à 15h, toujours à la piscine à Tramelan. L'événement est gratuit. Précisons encore qu'une offre similaire est aussi proposée à la piscine de Moutier. À Saint-Imier, des livres seront également mis prochainement à la disposition du public dans le courant de la saison. On reste dans le domaine aquatique. Après 2 ans de travaux, l'étang de la Marnière au Russy a été remis en eau et célébré dignement samedi lors d'une fête pluvieuse. Pour rappel, une fuite causée par un séisme en France voisine avait vidé l'étang en 2022. Grâce à un sourcier, le problème a été identifié et réparé pour un coût total d'environ 140 000 francs. Malgré la pluie, la foire de Corgémont a fait le plein ce week-end. Près de 1000 personnes ont bravé le mauvais temps pour faire la fête sur le plateau de la gare. Cocktails, concerts, animations sportives et cuisine locale ont rythmé cette 35e édition. En point d'orgue, une nuit de folie jusqu'à 4h du matin samedi. Seul bémol, les averses ont fait fuir une partie des marchands. Vélafrica lorgne sur les vélos biennois. L'association qui collecte chaque année plus de 40 000 vélos en Suisse organise pour la première fois une récolte dans la cité célandaise du 17 au 19 juin prochain. Les personnes possédant une bicyclette usagée qu'ils n'utilisent plus pourront ainsi lui offrir une deuxième vie en Afrique, dans des pays comme la Tanzanie, le Burkina Faso ou Madagascar. Théodore Perriard, responsable communication pour Vélafrica, nous explique d'où vient cet intérêt soudain pour la ville de Bienne.
La demande de vélos recyclés suisses auprès de nos partenaires en Afrique est en constante augmentation. Du coup, nous devons donc constamment chercher de nouvelles possibilités pour la collecte de vélos en Suisse. Et puis, lors des 2 dernières actions de collecte de vélos dans cette région, c'était plutôt du côté du lac de Neuchâtel que nous nous sommes rendus. Mais vu que la ville de Bienne et puis la région environnante forment une communauté très attachée au vélo aussi, il nous a semblé évident d'organiser une action de collecte dans la région de Bienne aussi.
Alors concrètement, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, comment ça va fonctionner? Comment est-ce que les gens peuvent faire pour participer à cette collecte?
Pour participer, en fait, c'est très très simple. Si vous habitez dans la ville de Neuchâtel, la ville de Bienne ou une des communes environnantes, vous remplissez le formulaire que vous trouvez sur notre site web jusqu'au 10 juin. Et puis après la clôture des inscriptions, nous vous enverrons par poste des étiquettes pour marquer vos vélos, ainsi que les informations sur la date de collecte. Et puis pendant les 3 jours de collecte, nous viendrons chercher les vélos à votre domicile.
Voilà, bon, pour rappel, le délai d'inscription court donc jusqu'à demain 10 juin. Sur le site velafrica.ch, vous trouverez le formulaire d'inscription en question ainsi que la liste des critères à respecter. Précisons qu'une fois ce délai passé, des points de dépôt resteront disponibles à Bienne durant le reste de l'année. Un succès historique pour la Bible de Moutier-Grandval à Delémont. Plus de 18 000 visiteurs sont venus admirer ce trésor du 9e siècle exposé pendant 3 mois au musée jurassien. L'œuvre prêtée par la British Library repart donc à Londres malgré une forte demande et des créneaux complets. À noter que les conditions de son retour outre-Manche restent secrètes. Il en faut plus pour nous décourager. Ce sont les mots des bénévoles engagés dans le montage de Festineuch. Malgré la pluie de ces derniers jours, ils ont répondu présent sur les Jeunes Rives à Neuchâtel. Ils sont plus de 1600 cette année à s'être engagés pour le montage et le démontage, ainsi que pendant le week-end du festival. Et pour cause, il en faut des bras pour construire les quatre scènes, les bars et autres tentes qui accueilleront les festivaliers dès jeudi. Ce week-end, juste après la pause de midi, certains étaient déjà de retour au travail, en particulier dans le magasin du festival. Reportage.
Je m'appelle José, je travaille au magasin d'outillage de l'infrastructure à Festineuch depuis 18 ans.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici ?
Alors, ici au magasin, on prête les outils aux bénévoles qui sont sur le terrain et puis on tâche de gérer ça au mieux pour qu'ils les ramènent en fin de journée. Et si ce n'est pas le cas, on sait où aller les chercher. Ce matin, en me levant, j'ai vu qu'il pleuvait. Je me suis dit, ah non, il pleut. Et après, je me suis dit, bah, t'as de la chance, t'es au sec au magasin.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Johan Mami, je suis responsable tente et flanchée à Festineuch depuis 5-6 ans maintenant.
Et puis vous ?
Moi, c'est Kylian Boss, je suis responsable véhicule chantier.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ?
On est actuellement en train de monter toutes les tentes, toutes les planchers, tout ce qui va pouvoir servir de bar. Puis tout se passe bien malgré le temps.
Justement, il y a de la pluie, est-ce que ça change quelque chose ?
Nous, en tant que machinistes, ça nous complique un peu la tâche. On doit faire vraiment attention au terrain et puis faire en sorte de pouvoir garder le site le plus propre possible pour pouvoir justement accueillir tous les festivaliers. Par chance, on a plein de plaques de sol qu'on arrive à placer partout pour éviter justement de devoir rouler dans l'herbe. On a aussi mis plein de protections sur l'herbe et puis ça nous permet justement d'éviter de détruire le terrain.
Le moral, il reste bon ?
Oui, on a en général une bonne équipe de bénévoles, etc. On est tous motivés, on essaie de garder le sourire et se persuader qu'il fait beau.
Je m'appelle Romain Morel, je suis responsable du secteur bois et je m'occupe de la menuiserie sur le site et de l'ensemble des pièces en bois.
Depuis combien de temps vous aidez au montage de Festineuch ?
Alors, j'ai commencé il y a 7 ans comme bénévole, il y a 3 ans comme responsable du secteur bois et puis on fait globalement un mois avec les collègues et les copains pour le montage des montages.
Le temps n'est pas avec vous cette semaine, hein. Qu'est-ce que ça change dans le montage ?
Ça change que de jour en jour, on reporte un peu des petits chantiers en se disant on les fera quand on sera au sec, etc. Et au final, on prend du retard, donc on est obligé de travailler sous la pluie et on a la chance d'avoir des bénévoles incroyables qui sont d'accord de travailler sous la pluie.
Donc ça met un petit peu plus de challenge quand même la pluie.
Ça met un peu plus de challenge et ça retarde. Et en fait, le soir, on discute de ce qui est important, de ce qu'il faut faire absolument le lendemain et on essaie de rattraper le retard quand on a des petites accalmies et on se prend une plus grosse averse encore dehors quand on a toutes les machines, puis après mouiller pour mouiller. On finit de travailler.
Un reportage de Cléa Robert réalisé ce week-end avec les bénévoles de Festineuch qui s'activent au montage du festival. Malgré la pluie, ces derniers n'ont pas pris trop de retard et normalement tout devrait être prêt jeudi pour l'ouverture de cette 24e édition qui affiche d'ores et déjà complet les 4 soirs. La situation reste tendue dans le Haut-Val-de-Bagne, en Valais, touché par des glissements de terrain depuis plusieurs jours. Les données GPS démontrent une accélération des glissements, atteignant par endroits jusqu'à 2 mètres par jour. Les coulées ont cessé hier soir, mais les travaux sont suspendus et par mesure de précaution, une trentaine d'habitants ont dû être évacués. La commune surveille de près les points critiques entre champs secs et sans brancher. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de matériaux se sont accumulés et un scénario du pire est à l'étude. On reste en montagne où un voile venu du Canada flotte sur les Alpes suisses. La fumée des feux de forêt canadiens a traversé l'Atlantique, porté par le jet stream, et il a atteint la Suisse ce week-end. Résultat, un ciel laiteux, une visibilité réduite et une concentration de particules fines au-dessus des normes. C'était notamment le cas aujourd'hui sur le Jungfraujoch et au Tessin. Dans l'actualité internationale, un nouveau processus d'échange de prisonniers entre Kiev et Moscou a débuté aujourd'hui, impliquant des soldats jeunes, blessés ou malades. Il résulte des rares avancées des négociations d'Istanbul début juin. À noter que le nombre de prisonniers libérés est tenu secret pour l'instant. L'échange se fera en plusieurs étapes dans les jours à venir. À noter que c'est le 66e du genre depuis le début de l'invasion russe en 2022. Cette explosion en mer au large de l'Inde, un porte-conteneur singapourien a pris feu après une explosion ce lundi à 78 miles du port de Bayport, dans le sud de l'Inde. Sur les 22 membres d'équipage, 18 ont été secourus, certains blessés, 4 marins sont toujours portés disparus. La marine indienne est mobilisée pour les recherches. On ouvre une page de sport avec tout d'abord de la course à pied. Michael Morand et Morgan Croza ont dominé la 20e Jurassim, remportant les 5 étapes sur 77 km. En tête dès la première course, ils ont creusé l'écart malgré la météo pour s'imposer largement à Tavannes aujourd'hui. Le courtisan sacré pour la deuxième fois a devancé Gilles Champion de plus de 13 minutes. Quant à la Jurassienne, pour sa première participation, elle a laissé ses rivales à près de 18 minutes. En tennis, Yannick Sinner creuse l'écart malgré sa défaite à Roland-Garros hier, perdant magnifique dimanche en finale du tournoi parisien au terme d'un match d'anthologie. L'Italien conforte sa place de numéro 1 mondial devant son rival Carlos Alcaraz, vainqueur du tournoi. L'Allemand Alexander Zverev reste troisième, tandis que Novak Djokovic grimpe à la cinquième place. Chez les femmes, Arina Sabalenka et Coco Gauff se maintiennent au sommet. À noter aussi cette surprise au terme du tournoi. La Française Loïse Boisson fait un bond spectaculaire de 296 places et entre dans le top 100. Elle pointe désormais au 65e rang mondial. Enfin en football, Christian Kivu est le nouvel entraîneur de l'Inter Milan à 44 ans. L'ancien défenseur du club, vainqueur de la Ligue des Champions en 2010, succède à Simone Inzaghi, parti à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Kivu, qui avait brièvement coaché Parme en Serie A, a signé jusqu'en 2027. A noter que l'Inter visait initialement Cesc Fabregas, retenu par Côme. Un coup d'œil sur la météo avant de refermer ce journal. Après une fin de semaine passée humide, voire même carrément automnale, l'été semble enfin s'installer sur la région. Demain mardi, le temps sera bien ensoleillé. Quelques voiles d'altitude à signaler en cours de journée, mais rien qui devrait venir gâcher la fête. Pour les températures, comptez 23 degrés à Tramelan et Tavannes, 24 à Saint-Imy et 25 à Moutiers et jusqu'à 27 degrés au bord du lac de Bienne. Le soleil qui va encore nous accompagner toute cette semaine. De son côté, le mercure va continuer de grimper au fur et à mesure des jours pour venir taquiner, voire même dépasser la barre des 30 degrés le week-end prochain. Voilà qui marque la fin de ces informations. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'RJB.